Chères auditrices et auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Pour cette seconde et dernière émission d'octobre 2009, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la jeunesse. Nous terminerons cette émission par divers communiqués de nos partenaires, ainsi que l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. C'est donc avec plaisir que nous donnons la parole à notre sœur Gisèle pour la suite du livre de la jeunesse. Aujourd'hui, elle vous parlera du chapitre 6 et plus particulièrement de la création première, des points 15 à 20.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 6, la création première, point 15. Le commencement absolu des choses remonte donc à Dieu. Leur apparition successive, dans le domaine de l'existence, constitue l'ordre de la création perpétuelle. Quel mortel saurait dire les magnificences inconnues et superbement voilées sous la nuit des âges qui se développèrent en ces temps antiques, où nulle des merveilles de l'univers actuel n'existait. À cette époque primitive, où la voix du Seigneur s'étant fait entendre, les matériaux qui devaient, dans l'avenir, s'assembler symétriquement et d'eux-mêmes pour former le temps de la nature, se trouvèrent soudain au sein des vides infinis. Lorsqu'à cette voix mystérieuse, que chaque créature vénère et chérit comme celle d'une mère, des notes harmonieusement variées se produisirent pour aller vibrer ensemble et moduler le concert des vastes cieux. Le monde, à son berceau, ne fut point établi dans sa virilité et dans sa plénitude de vie. Non, le pouvoir créateur ne se contredit jamais, et, comme toute chose, l'univers naquit enfant. Revêtu des lois mentionnées plus haut, et de l'impulsion initiale inhérente à sa formation même, la matière cosmique primitive donna successivement naissance à des tourbillons, à des agglomérations de ce fluide diffus, à des amas de matière nébuleuse qui se divisèrent eux-mêmes et se modifièrent à l'infini pour enfanter, dans les régions incommensurables de l'étendue, divers centres de création simultanées ou successives. En raison des forces qui prédominèrent sur l'un ou sur l'autre et des circonstances ultérieures qui présidèrent à leur développement, ces centres primitifs devinrent les foyers d'une vie spéciale. Les uns, moins disséminés dans l'espace et plus riches en principes et en forces agissantes, commencèrent dès lors leur vie astrale particulière. Les autres, occupant une étendue illimitée, ne grandirent qu'avec une extrême lenteur, ou se divisèrent de nouveau en d'autres centres secondaires. Point 16. En nous reportant à quelques millions de siècles seulement au-dessus de l'époque actuelle, notre Terre n'existe pas encore. Notre système solaire lui-même n'a pas encore commencé les évolutions de la vie planétaire. Et cependant déjà, de splendides soleils illuminent les terres. Déjà, des planètes habitées donnent la vie et l'existence à une multitude d'êtres qui nous ont précédés dans la carrière humaine. Les productions opulentes d'une nature inconnue et les phénomènes merveilleux du ciel développent sous d'autres regards les tableaux de l'immense création. Que dis-je ? Déjà des splendeurs ne sont plus, qui jadis ont fait palpiter le cœur d'autres mortels sous la pensée de l'infini puissant. Et nous, pauvres petits êtres qui venons après une éternité de vie, nous nous croyons contemporains de la création. Encore une fois, comprenons mieux la nature. Sachons que l'éternité est derrière nous comme devant, que l'espace est le théâtre d'une succession et d'une simultanéité inimaginables de création. Telles nébuleuses que nous distinguons à peine dans les lointains du ciel sont des agglomérations de soleil en voie de formation. Telles autres sont des voies lactées de mondes habités. D'autres, enfin, le siège de catastrophes ou de dépérissements. Sachons que de même que nous sommes placés au milieu d'une infinité de mondes, de même nous sommes au milieu d'une double infinité de durées antérieures et ultérieures. que la création universelle n'est point bornée à nous et que nous ne pouvons appliquer ce mot à la formation isolée de notre petit globule. La création universelle. Point 17. Après être remonté, autant qu'il est en notre faiblesse, vers la source cachée d'où découlent les mondes comme les gouttes d'eau du fleuve, considérons la marche des créations successives et de leur développement sériel. La matière cosmique primitive renfermait les éléments matériels fluidiques et vitaux de tous les univers qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Elle est la mère féconde de toutes choses, la première aïeule et, qui plus est, la génératrice éternelle. Elle n'a point disparu. Cette substance d'où proviennent les sphères sidérales, elle n'est point morte, cette puissance, car elle donne encore incessamment le jour à de nouvelles créations et reçoit incessamment les principes reconstitués des mondes qui s'effacent du livre éternel. La matière éthérée, plus ou moins raréfiée, qui descend parmi les espaces interplanétaires. Ce fluide cosmique qui remplit le monde, plus ou moins raréfié dans les régions immenses, riches en agglomérations d'étoiles, plus ou moins condensé là où le ciel astral ne brille pas encore, plus ou moins modifié par diverses combinaisons, suivant les localités de l'étendue, n'est autre chose que la substance primitive en qui résident les forces universelles, d'où la nature a tiré toute chose. Remarque. Si l'on demandait quel est le principe de ces forces et comment il peut être dans la substance même qui le produit, nous répondrions que la mécanique nous en offre de nombreux exemples. L'élasticité qui fait détendre un ressort n'est-elle pas dans le ressort même et ne dépend-elle pas du monde d'agrégation des molécules? Le corps qui obéit à la force centrifuge reçoit son impulsion du mouvement primitif qui lui a été imprimé. Fin de la remarque. Point 18. Ce fluide pénètre les corps comme un immense océan. C'est en lui que réside le principe vital qui donne naissance à la vie des êtres et la perpétue sur chaque globe suivant sa condition. Principe à l'état latent qui sommeille là où la voix d'un être ne l'appelle pas. Chaque créature, minérale, végétale, animale ou autre, car il est bien d'autres règnes naturels dont vous ne soupçonnez pas même l'existence, c'est, en vertu de ce principe vital universel, s'approprier les conditions de son existence et de sa durée. Les molécules du minéral ont leur somme de cette vie, aussi bien que la graine et l'embryon, et ce groupe, comme dans l'organisme, en figure symétrique qui constitue les individus. Il importe fort de se pénétrer de cette notion, que la matière cosmique primitive était revêtue non seulement des lois qui assurent la stabilité des mondes, mais encore du principe vital universel qui forme des générations spontanées sur chaque monde, à mesure que se manifestent les conditions de l'existence successive des êtres et quand sonne l'heure de l'apparition des enfants de la vie pendant la période créatrice. Ainsi s'effectue la création universelle. Il est donc vrai de dire que, les opérations de la nature étant l'expression de la volonté divine, Dieu a toujours créé, crée sans cesse et créera toujours. Point 19. Mais jusqu'ici, nous avons passé sous silence le monde spirituel qui, lui aussi, fait partie de la création et accomplit ses destinées suivant les augustes prescriptions du Maître. Je ne puis donner qu'un enseignement bien restreint sur le mode de création des esprits, eu égard à ma propre ignorance même, et je dois me taire encore sur certaines questions, quoiqu'il m'ait été permis de les approfondir. À ceux qui sont religieusement désireux de connaître et qui sont humbles devant Dieu, je dirais, en les suppliant eux-mêmes de ne baser aucun système prématuré sur mes paroles. L'esprit n'arrive point à recevoir l'illumination divine qui lui donne, en même temps que le libre arbitre et la conscience, la notion de ses hautes destinées, sans avoir passé par la série divinement fatale des êtres inférieurs, parmi lesquels s'élabore lentement l'œuvre de son individualité. C'est seulement à dater du jour où le Seigneur imprime sur son front son auguste type, que l'esprit prend rang parmi les humanités. Encore une fois, ne bâtissez point sur mes paroles vos raisonnements, si tristement célèbres dans l'histoire de la métaphysique. Je préférerais mille fois me taire sur des questions aussi élevées au-dessus de nos méditations ordinaires, plutôt que de vous exposer à dénaturer le sens de mon enseignement et à vous enfoncer, par ma faute, dans les dédales inextricables du déisme ou du fatalisme. Les soleils et les planètes. Point 20. Or, il arriva qu'en un point de l'univers, perdu parmi les myriades de mondes, la matière cosmique se condensa sous la forme d'une immense nébuleuse. Cette nébuleuse était animée des lois universelles qui régissent la matière. En vertu de ces lois, et notamment de la force moléculaire d'attraction, elle revêtit la figure d'un sphéroïde, la seule que puisse revêtir primitivement une masse de matière isolée dans l'espace. Le mouvement circulaire, produit par la gravitation rigoureusement égale de toutes les zones moléculaires vers le centre, modifia bientôt la sphère primitive pour la conduire de mouvement en mouvement vers la forme lenticulaire. Nous parlons de l'ensemble de la nébuleuse.
Poursuivons notre lecture du jour par le sixième chapitre de la Genèse, traitant des soleils et des planètes, des points 21 à 27.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 6, les soleils et les planètes, point 21. De nouvelles forces surgirent à la suite de ce mouvement de rotation, la force centripète et la force centrifuge. La première tendant à réunir toutes les parties au centre, la seconde tendant à les en éloigner. Or, le mouvement s'accélérant à mesure que la nébuleuse se condense et son rayon augmentant à mesure qu'elle approche de la forme lenticulaire, la force centrifuge, incessamment développée par ces deux causes, prédomina bientôt sur l'attraction centrale. De même qu'un mouvement trop rapide de la fronde embrise la corde et laisse échapper au loin le projectile, ainsi la prédominance de la force centrifuge détacha le cercle équatorial de la nébuleuse et de cet anneau forma une nouvelle masse isolée de la première, mais néanmoins soumise à son empire. Cette masse a conservé son mouvement équatorial qui, modifié, devint son mouvement de translation autour de l'astre solaire. De plus, son nouvel état lui donne un mouvement de rotation autour de son propre centre. Point 22. La nébuleuse génératrice qui donna naissance à ce nouveau monde s'est condensée et a repris la forme sphérique. Mais la chaleur primitive, développée par ses mouvements divers, ne s'affaiblissant qu'avec une extrême lenteur, le phénomène que nous venons de décrire se reproduira souvent et pendant une longue période, tant que cette nébuleuse ne sera pas devenue assez dense, assez solide, pour opposer une résistance efficace aux modifications de forme que lui imprime successivement son mouvement de rotation. Elle n'aura donc pas donné naissance à un seul astre, mais à des centaines de mondes détachés du foyer central, issus d'elle par le monde de formation mentionné plus haut. Or, chacun de ces mondes, revêtu comme le monde primitif des forces naturelles qui président à la création des univers, engendrera dans la suite de nouveaux globes gravitant désormais autour de lui, comme il gravite concurremment avec ses frères autour du foyer de leur existence et de leur vie. Chacun de ces mondes sera un soleil, centre d'un tourbillon de planètes successivement échappées de son équateur. Ces planètes recevront une vie spéciale, particulière, quoique dépendante de leur astre générateur. Point 23. Les planètes sont ainsi formées de masses de matière condensées, mais non encore solidifiées, détachées de la masse centrale par l'action de la force centrifuge, et prenant, en vertu des lois du mouvement, la forme sphéroïdale plus ou moins elliptique selon le degré de fluidité qu'elles ont conservé. L'une de ces planètes sera la Terre, qui, avant d'être refroidie et revêtue d'une croûte solide, donnera naissance à la Lune, par le même mode de formation astrale auquel elle doit sa propre existence. La Terre, désormais inscrite au livre de vie, berceau de créatures dont la faiblesse est protégée sous l'aile de la divine providence, corde nouvelle sur la harpe infinie qui doit vibrer en son lieu dans le concert universel des mondes. Les satellites. Point 24. Avant que les masses planétaires aient atteint un degré de refroidissement suffisant pour en opérer la solidification, des masses plus petites, véritables globules liquides, se sont détachées de quelques-unes dans le plan équatorial, plan dans lequel la force centrifuge est la plus grande, et en vertu des mêmes lois, ont acquis un mouvement de translation autour de leur planète génératrice, comme il en a été de celle-ci, autour de leur astre générateur. C'est ainsi que la Terre a donné naissance à la Lune, dont la masse, moins considérable, a dû subir un refroidissement plus prompt. Or, les lois et les forces qui présidèrent à son détachement de l'équateur terrestre et son mouvement de translation dans ce même plan agirent de telle sorte que ce monde, au lieu de revêtir la forme sphéroïde, prit celle d'un globe ovoïde, c'est-à-dire ayant la forme allongée d'un œuf, dont le centre de gravité serait fixé à la partie inférieure. Point 25. Les conditions dans lesquelles s'effectua la désagrégation de la Lune lui permirent à peine de s'éloigner de la Terre et la contraignirent à rester perpétuellement suspendue dans son ciel, comme une figure ovoïde dont les parties les plus lourdes formèrent la force inférieure tournée vers la Terre, et dont les parties les moins denses occupèrent le sommet, si l'on désigne par ce mot le côté tourné à l'opposite de la Terre, et s'élevant vers le ciel. C'est ce qui fait que cet astre nous présente continuellement la même face. Il peut être assimilé, pour mieux faire comprendre son état géologique, à un globe de Liège dont la base tournée vers la Terre serait formée de plomb. De là, deux natures essentiellement distinctes à la surface du monde lunaire. L'une, sans nulle analogie possible avec le nôtre, car les corps fluides et éthérés lui sont inconnus. L'autre, légère, relativement à la Terre, puisque toutes les substances les moins denses se portèrent sur cet hémisphère. La première, perpétuellement tournée vers la Terre, sans eau et sans atmosphère, si ce n'est que quelquefois, aux limites de cet hémisphère subterrestre, l'autre, riche en fluides, perpétuellement opposé à notre monde. Remarque. Cette théorie de la Lune, entièrement nouvelle, explique, par la loi de la gravitation, la raison pour laquelle cet astre présente toujours la même face à la Terre. Son centre de gravité, au lieu d'être au centre de la sphère, se trouvant sur le dépôt de sa surface et par conséquent attiré vers la Terre par une force plus grande que les parties plus légères, la Lune produirait l'effet des figures appelées poussas qui se redressent constamment sur leur base, tandis que les planètes, dont le centre de gravité est à égale distance de la surface, tournent régulièrement sur leur axe. Les fluides, vivifiants, gazeux ou liquides, par suite de leur légèreté spécifique, se trouveraient accumulés dans l'hémisphère supérieur, constamment opposé à la Terre. L'hémisphère inférieur, le seul que nous voyons, en serait dépourvu, et par suite impropre à la vie, tandis qu'elle régnerait sur l'autre. Si donc l'hémisphère supérieur est habité, ses habitants n'ont jamais vu la Terre, à moins d'excursions dans l'autre hémisphère, ce qui leur serait impossible s'il n'y a pas les conditions nécessaires de vitalité. Quelque rationnel et scientifique que soit cette théorie, comme elle n'a pu encore être confirmée par aucune observation directe, elle ne peut être acceptée qu'à titre d'hypothèse et comme une idée pouvant servir de jalon à la science. Mais on ne peut disconvenir que ce soit la seule, jusqu'à présent, qui donne une explication satisfaisante des particularités que présente ce globe. Fin de la remarque. Point 26. Le nombre et l'état des satellites de chaque planète ont varié selon les conditions spéciales dans lesquelles ils se sont formés. Quelques-unes n'ont donné naissance à aucun astre secondaire, tel que Mercure, Vénus et Mars, tandis que d'autres en ont formé un ou plusieurs, comme la Terre, Jupiter, Saturne, etc. Point 27. Outre ces satellites ou lunes, la planète de Saturne présente le phénomène spécial de l'anneau qui, vu de loin, semble l'entourer comme d'une blanche auréole. Cette formation est pour nous une nouvelle preuve de l'universalité des lois de la nature. Cet anneau est en effet le résultat d'une séparation qui s'est opérée au temps primitif dans l'équateur de Saturne, de même qu'une zone équatoriale s'est échappée de la Terre pour former son satellite. La différence consiste en ce que l'anneau de Saturne se trouva formé, dans toutes ses parties, de molécules homogènes, probablement déjà dans un certain état de condensation, et put, de cette sorte, continuer son mouvement de rotation dans le même sens et dans un temps à peu près égal à celui qui anime la planète. Si l'un des points de cet anneau avait été plus dense qu'un autre, une ou plusieurs agglomérations de substances se seraient subitement opérées, et Saturne aurait compté plusieurs satellites de plus. Depuis le temps de sa formation, cet anneau s'est solidifié, ainsi que les autres corps planétaires.
Et pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre le chapitre 6, traitant des comètes, points 28 à 37.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 6, les comètes, point 28. Astres errants, plus encore que les planètes qui ont conservé la dénomination étymologique, les comètes seront les guides qui nous aideront à franchir les limites du système auquel appartient la Terre, pour nous porter vers les régions lointaines de l'étendue sidérale. Mais avant d'explorer, à l'aide de ces voyageuses de l'univers, les domaines célestes, il sera bon de faire connaître, autant qu'il est possible, leur nature intrinsèque et leur rôle dans l'économie planétaire. Point 29. On a souvent vu dans ces astres chevelus des mondes naissants, élaborant dans leur chaos primitif les conditions de vie et d'existence qui se donnaient en partage aux terres habitées. D'autres se sont imaginés que ces corps extraordinaires étaient des mondes à l'état de destruction, et leur apparence singulière fut pour beaucoup le sujet d'appréciation erronée sur leur nature, de telle sorte qu'il n'est pas jusqu'à l'astrologie judiciaire qui n'en ait fait des présages de malheur envoyés par les décrets providentiels à la terre étonnée et tremblante. Point 30. La loi de variété est appliquée avec une si grande profusion dans les travaux de la nature qu'on se demande comment les naturalistes, astronomes ou philosophes ont élevé tant de systèmes pour assimiler les comètes aux astres planétaires, et pour ne voir en elles que des astres à un degré plus ou moins grand de développement ou de caducité. Les tableaux de la nature devaient amplement suffire. Cependant, pour éloigner de l'observateur le souhait de rechercher des rapports qui n'existent pas et laisser aux comètes le rôle modeste mais utile d'astres errants servant d'éclaireurs pour les empires solaires. Car les corps célestes dont il s'agit sont tout autres que les corps planétaires. Ils n'ont point, comme eux, la destination de servir de séjour aux humanités. Ils vont successivement de soleil en soleil, s'enrichissant parfois en route de fragments planétaires réduits à l'état de vapeur, puisés à leur foyer les principes vivifiants et rénovateurs qu'ils déversent sur les mondes terrestres. Voir chapitre 9, numéro 12. Point 31. Si, Lorsqu'un de ces astres s'approche de notre petit globe, pour en traverser l'orbite et retourner à son apogée, situé à une distance incommensurable du Soleil, nous le suivions par la pensée, pour visiter avec lui les contrées sidérales. Nous franchirions cette étendue prodigieuse de matière éthérée qui sépare le Soleil des étoiles les plus voisines, et, observant les mouvements combinés de cet astre que l'on croirait égaré dans le désert de l'infini, nous trouverions là encore une preuve éloquente de l'universalité des lois de la nature, qui s'exercent à des distances que l'imagination la plus active peut à peine concevoir. Là, la forme elliptique prend la forme parabolique, et la marche se ralentit au point de ne parcourir que quelques mètres dans le même temps qu'à son périgée elle parcourait plusieurs milliers de lieues. Peut-être un soleil plus puissant, plus important que celui qu'elle vient de quitter, usera-t-il envers cette comète d'une attraction prépondérante et la recevra-t-il au rang de ses propres sujets? Et alors, les enfants étonnés de votre petite terre en attendront en vain le retour qu'ils avaient pronostiqué par des observations incomplètes. Dans ce cas, nous, dont la pensée a suivi la comète errante en ces régions inconnues, nous rencontrerons alors une nouvelle nation introuvable pour les regards terrestres, inimaginable pour les esprits qui habitent la Terre, inconcevable même à leur pensée, car elle sera le théâtre de merveilles inexplorées. Nous sommes parvenus au monde astral, dans ce monde éblouissant des vastes soleils qui rayonnent dans l'espace infini, et qui sont les fleurs brillantes du parterre magnifique de la création. Arrivés là, nous saurons seulement ce que c'est que la Terre. La Voie lactée, point 32. Pendant les belles nuits étoilées et sans lune, chacun a pu remarquer cette lueur blanchâtre qui traverse le ciel d'une extrémité à l'autre, et que les anciens avaient surnommée Voie lactée, à cause de son apparence laiteuse. Cette lueur diffuse a été longuement explorée par l'œil du télescope dans les temps modernes, et ce chemin de poudre d'or ou ce ruisseau de lait de l'antique mythologie s'est transformé en un vaste champ de merveilles inconnues. Les recherches des observateurs ont amené à la connaissance de sa nature et ont montré, là où le regard égaré ne rencontrait qu'une faible clarté, des millions de soleils plus lumineux et plus importants que celui qui nous éclaire. Point 33. La Voie lactée, en effet, est une campagne semée de fleurs solaires ou planétaires qui brillent dans sa vaste étendue. Notre soleil et tous les corps qui l'accompagnent font partie de ces globes rayonnants dont se compose la Voie lactée. Mais, malgré ses dimensions gigantesques relativement à la Terre et à la grandeur de son empire, il n'occupe cependant qu'une place inappréciable dans cette vaste création. On peut compter une trentaine de millions de soleils semblables à lui qui gravitent en cette immense région, éloignés chacun les uns des autres de plus de 100 000 fois le rayon de l'orbite terrestre. Remarque, plus de 3 trillions 400 billions de lieues, fait de la remarque. Point 34. On peut juger par cette approximation de l'étendue de cette région sidérale et de la relation qui unit notre système à l'universalité des systèmes qui l'occupent. On peut juger également de l'exiguïté du domaine solaire et a fortiori du néant de notre petite Terre. Que serait-ce donc si l'on considérait les êtres qui le peuplent? Je dis du néant, car nos déterminations s'appliquent non seulement à l'étendue matérielle, physique, des corps que nous étudions, ce serait peu, mais encore et surtout à leur état moral d'habitation, au degré qu'ils occupent dans l'éternelle hiérarchie des êtres. La création s'y montre dans toute sa majesté, créant et propageant tout autour du monde solaire et dans chacun des systèmes qui l'entourent de toutes parts, les manifestations de la vie et de l'intelligence. Point 35. On connaît de cette manière la position occupée par notre Soleil ou par la Terre dans le monde des étoiles. Ces considérations acquerront un plus grand poids encore si l'on réfléchit à l'état même de la Voie lactée qui, dans l'immensité des créations sidérales, ne représente elle-même qu'un point insensible et inappréciable vu de loin. Car elle n'est autre chose qu'une nébuleuse stellaire, comme il en existe des milliers dans l'espace. Si elle nous paraît plus vaste et plus riche que d'autres, c'est par cette seule raison qu'elle nous entoure et se développe dans toute son étendue sous nos yeux, tandis que les autres, perdus dans des profondeurs insondables, se laissent à peine entrevoir. Point 36. Or, si l'on sait que la Terre n'est rien ou presque rien dans le système solaire, celui-ci, rien ou presque rien dans la Voie lactée. Celle-ci, rien ou presque rien dans l'universalité des nébuleuses, et cette universalité elle-même, fort peu de choses au milieu de l'immense infini. On commencera à comprendre ce que c'est que le globe terrestre. Les étoiles fixes. Point 37. Les étoiles que l'on appelle fixes et qui constellent les deux hémisphères du firmament ne sont point isolées de toute attraction extérieure, comme on le suppose généralement. Loin de là, elles appartiennent toutes à une même agglomération d'astres stellaires. Cette agglomération n'est autre que la grande nébuleuse dont nous faisons partie et dont le plan équatorial qui se projette dans le ciel a reçu le nom de Voie lactée. Tous les soleils qui la composent sont solidaires. Leurs multiples influences réagissent perpétuellement l'une sur l'autre et la gravitation universelle les réunit tous en une même famille.
Nous voici arrivés à la seconde partie de cette émission, celle où nous répondons habituellement aux questions que vous avez bien voulu nous poser par courriel ou notre répondeur téléphonique. Actuellement, nos réponses sont en préparation. Nous donnerons suite à vos questions lors d'une prochaine émission. Le jeudi 17 septembre 2009, Monsieur César Braga, de passage à Paris, a eu la gentillesse de prononcer une conférence dans le centre Le Chemin, dont le thème était « Santé et maladie vues à la lumière de la doctrine spirit ». Vous pouvez prendre connaissance de cette conférence et même la télécharger à l'adresse suivante www.centrelechemin.fr. Nous rappelons l'adresse de nos amis du centre Le Chemin à Paris, 82 boulevard Haussmann, 75 008 Paris. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous débuterons par le Luxembourg. Le docteur Marlène Nobre sera au Luxembourg et prononcera deux conférences les 27 et 28 octobre prochains, et ceci au Centre culturel de l'Interbeek, 49 rue Emersinde, à 1469 Luxembourg. À 19h30, le 27 octobre, elle vous parlera des thérapies au moyen des passes magnétiques. Le 28 octobre, à 19h30, elle vous parlera du don de la médiumnité. Ces deux conférences sont à l'initiative du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg, dont l'email est alainkardeclux@yahoo.fr. Vous pouvez faire vos réservations en formant le 352 55 29 46 ou via GSM le 352 661 55 29 46. Nous comptons sur votre présence. En Belgique. Pour fêter les 10 ans de sa reconstitution et du travail accompli pour la diffusion de la philosophie spirit en Belgique, l'Union Spirit Belge organise un dîner le dimanche 22 novembre 2009 dès 11h au domaine du château de la Neuville. En effet, l'Union Spirit Belge existe depuis 1874 et avait dû arrêter ses activités en 1914. 1995. Elle a été reconstituée en 1999 par son actuel président, M. Jean-Paul Évrard. Nous avions besoin de la reconstituer pour coordonner l'intégration entre les divers centres spirites existants dans notre pays. L'union nous permet de réaliser différentes activités avec l'aide de tous les groupes pour le bien de la diffusion de la philosophie. Les dîners sont déjà une tradition à l'Union. Ceux-ci permettent entre autres à faire connaissance avec les bénévoles de tous les centres spirites. Un dîner a donc été organisé pour cette commémoration. Le prix par personne est de 19 euros et les réservations sont faites par les biais du formulaire d'inscription du site de l'Union. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, même si vous ne participez pas activement à la réalisation de nos activités. Nous vous attendons très nombreux. Nous vous rappelons le dimanche 22 novembre 2009 à 11h au domaine du château de la Neuville, rue de la Neuville à 4500 Neuville. Vous pouvez faire vos réservations directement à l'Union Spirit Belge en effectuant un paiement par virement sur le compte de l'Union Spirit Belge. Le compte est le numéro 142 06 28 464 26 Union Spirit Belge, rue Maguin, 43 4000 Liège. Inscrivez-vous vite en utilisant notre formulaire d'inscription sur le site spirit.be. Enfance. Nos amis de l'Association parisienne d'études spirites nous prient de vous communiquer leur programme d'activité pour fin octobre 2009. Le vendredi 16 octobre 2009 à 20h, les responsables de la PES auront le plaisir de vous accueillir pour vous parler des évocations. Le vendredi 23 octobre 2009 à 20h, ils vous parleront de l'œuvre d'Allan Kardec, de la pédagogie au spiritisme. Le vendredi 30 octobre 2009 à 20h, ils vous parleront des valeurs morales comme projection de la beauté de l'âme. Le samedi 31 octobre 2009 à 15h, ils vous parleront de l'art et le spiritisme. Pour renseignements complémentaires, merci de bien vouloir prendre contact en formant depuis la France le 0 141 931 708 ou via leur site www.apes.asso.fr. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirite dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.